Bonjour, Marco compte à rebours. Compte à rebours, l'émission de contes de Radio CFM, de contes d'histoire, toutes sortes de nouvelles, de petits textes. Eh bien aujourd'hui, des contes, tout simplement des contes qui nous viennent des arbres. Il y a des moments, dans la vie, on a l'impression que tout converge. Bon, c'est qu'une impression, mais... Après tout, une impression est aussi une réalité. Réfléchissez-y. Donc, tout converge. Par exemple, en ce moment, c'est la convergence des luttes. Eh oui. Partout, mais bien sûr, si vous écoutez cette émission dans quelques années, ou dans quelques mois même, ce sera autre chose peut-être à l'actualité. Quoique, mais là, c'est les retraites et tout ça, et le 5 décembre, tout le monde sera dans la rue. Et si on regarde aussi au niveau mondial, que ce soit en Colombie, en Bolivie, bien en Hong Kong, en Iran, en Libye, au Liban, en Irak, et même en France, dans tout un tas de pays, il y a beaucoup de luttes sociales assez fortes, et des pouvoirs qui répriment. C'est encore des choses inquiétantes. Tout converge, tout le monde dit « ça suffit, l'injustice sociale ». Ça fait longtemps qu'elle dure. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler du tout. Je voulais parler de « tout converge ». Et aussi, « tout converge », bien sûr... pour nous faire prendre conscience qu'il y a un problème, on n'a pas assez, respecté, protégé ce qui nous fait vivre. Et ce qui nous fait vivre, c'est la terre. Hein. La terre et les forêts. Les forêts. 200 000 ans, un peu plus de 200 000 ans, hein, c'est, on peut dire, la apparition de l'Homo sapiens. Donc depuis plus de 200 000 ans, l'Homo sapiens, grâce aux forêts, se fournissent en eau potable, parce que c'est les forêts qui filtrent l'eau qui pleut. Aussi, les besoins alimentaires, en termes de fruits, de racines, de produits divers, de chasse, etc. 1,6 milliard de personnes tirent leur subsistance de la forêt. Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre. C'est énorme. Et puis aussi, les forêts, elles absorbent le dioxyde de carbone. Aujourd'hui, les forêts stockent un tiers du CO2 émis annuellement par les énergies fossiles. Donc, elles jouent un rôle fondamental contre le réchauffement climatique. Or, il se trouve qu'en 50 ans seulement, moi je me rappelle, j'ai plus de 50 ans, donc je suis de la génération des responsables, de ceux qui ont choisi ça. Puisque en quelques décennies, les écosystèmes forestiers ont été dévastés. 8 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année, notamment en zone tropicale. C'est énorme, énorme, énorme. Et bien sûr, on dit, il faut bien vivre. Mais l'impact pour ça, c'est que 85% des espèces aujourd'hui sont en danger. Et nous vivons grâce à la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale. Et si on a une terre, décrivons une terre future, une grande autoroute, des parkings de supermarchés, des immeubles pour habiter... Eh bien, cette terre-là, elle n'aura pas d'habitants. Mais non, parce que d'où viendra notre nourriture? D'où viendra notre air? Notre air est aussi purifié grâce à tout cet écosystème. En fait, on ne peut pas dire, ça c'est utile, ça c'est inutile. Tout est imbriqué. Et c'est vrai que depuis 50 ans, on a trop écouté, je crois, les bûcherons. Moi-même, je suis bûcheron, hein, je coupe du bois, hein, donc je suis dans le lot. Les bûcherons, les gens qui voulaient bétonner, qui voulaient développer, qui voulaient faire le progrès, on les a tellement écoutés qu'on est un peu à la limite et on s'inquiète sur notre avenir. Je suis allé à Paris voir une exposition, pas uniquement pour ça, hein, parce que cette exposition s'appelle « Nous, les arbres ». Et tiens, et je vais en parler de cette exposition un petit peu, avec quand même un fond sonore qui est, je l'avais déjà fait écouter un peu ici, parce que dans cette exposition, on l'entend, c'est Bernie Krause, que vous connaissez peut-être, c'est un gars qui était au début, je crois, des groupes rock là-bas en Californie, puis un beau jour il s'est dit « mais si j'enregistrais la nature » et il s'est rendu compte que c'était tout un orchestre. Et aujourd'hui, on va écouter le grand orchestre des animaux par Bernie Krause. C'est juste un micro qui est bien placé. Et donc, je continue à parler, hein, les oiseaux, c'est bien agréable. Cette exposition, Nous les arbres, à la Fondation Cartier à Paris, montre justement tout ça. Parce que c'est une exposition qui a été confiée à une personne qu'on appelle Francis Alice. Enfin, c'est pas lui qui l'a faite, mais il a été le conseiller principal. C'est un botaniste qui a écrit sur les arbres. Et voilà ce qu'il dit. Je me demande si le rapport premier aux arbres n'est pas d'abord esthétique, avant même d'être scientifique. Quand on rencontre un bel arbre, c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est vrai que les arbres, comme l'ensemble du règne végétal, ont fait l'objet, ces dernières décennies, de découvertes scientifiques qui permettent de porter un nouveau regard. Alors ça, c'est ce que dit le papier de la Fondation Cartier. On peut rétorquer que avant les scientifiques, les peuples premiers, les sorciers peut-être, les chamans, et chez nous les poètes, et même tous ceux qui sont un peu sensibles, tout simplement. Mais bon, on n'a pas l'habitude de les entendre parler, ni de se servir de ce qu'ils disent pour faire des choix. Et, mais cela, ils le disaient depuis tout ce temps-là, que la forêt était précieuse, la forêt était vivante, bien sûr, mais que aussi les arbres communiquaient, et que les arbres pouvaient nous aider. Aujourd'hui, on s'en rend compte que les arbres peuvent nous aider parce que, et bien sûr, l'arbre assimile le dioxyde de carbone, il régule aussi les précipitations. Or, on est aujourd'hui dans une crise climatique et on se dit, mais quand même, l'homme qui a fait beaucoup de dégâts ne représente, figurez-vous, que 0,01% de la masse organique terrestre. Tandis que les mondes végétales constituent 82,5%. Et les scientifiques estiment le nombre total d'arbres présents sur Terre à 3 000 milliards. Donc voilà, comme on a fait des bêtises et que ça commence à chauffer pour nous, on se dit peut-être les arbres vont nous aider. Espérons que ce ne soit pas trop tard. En tout cas, ils peuvent nous aider tout simplement en nous inspirant. Et depuis la nuit des temps, il existe des contes autour des arbres. Des contes peut-être qui viennent de ces arbres eux-mêmes. Allez-vous en savoir comment ils sont apparus. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. Un petit livre m'a inspiré, un petit livre, tout comme vers, je vous l'ai dit, c'est à la médiathèque de Caylus, on m'a proposé un livre pour raconter des histoires à la radio, puisque studio et médiathèque sont à côté, du coup il y a une connivence entre Radio CFM, Caylus et la médiathèque, bien sûr, c'est logique. Ce petit livre, c'est « Contes des sages gardiens de la Terre » de Patrick Fishman aux éditions du Seuil. Et ce sont des contes, qui parlent des arbres. Comment sont venus ces contes à nous ? demande Patrick Fishman en introduction. Au premier jour du monde, nous étions tous ensemble dans l'arbre. Le soir, avec les autres créatures, nous mangions le soleil en écoutant le chant de la terre. Nous, les humains, nous ne séparions pas l'antilope et la fleur de l'homme. Nous étions d'évidence les enfants du même rêve. Nous connaissions notre rocher et l'arbre florissant parcouru de champs, ce prodigieux frère. 10 000 oiseaux sautaient dans ses ramures et becquetaient sa parole. Ils puisaient les contes à la source et au creux des pierres pour les emporter et nous accompagner. Nous ne savions pas que nous allions abandonner la sérénité de l'arbre et du rocher, nous désunir de l'antilope et de la fleur, et pour tout dire, nous égarer. Nous ignorions qu'un jour, nous penserions la terre inerte et ne sentirions plus l'âme du monde. Les oiseaux, eux, le pressentaient. Créés pour veiller sur nos premières images, ces enchanteurs protégeraient le songe primordial des génies. Leur conte résisterait à tout, à la séparation, au temps et à l'oubli. Ils sauraient murmurer notre parenté, unirait nos poux au cœur des arbres et des pierres. Ils nous escorteraient dans un monde dénaturé pour nous protéger du tumulte et de l'ignorance, continuant de gazouiller et de rire devant la peur et l'avidité. Quand les conséquences de notre fugue deviendraient insoutenables, leur magie nutritive et vitale nous encouragerait à agir pour renaître, ayant lâché nos chimères. Déliés et réunifiés par la parole et enamourés, nous serions à nouveau nus sous les étoiles, joyeux de tutoyer la source et de dialoguer avec elle. Certains de ce pressentiment, les oiseaux au bec garni de contes étaient prêts pour le grand voyage. Ils se rassemblèrent. « Amenons au loin nos remèdes, dit le roi Zo, car nos petits frères humains qui veulent tout connaître sont en train de s'éloigner, de s'endormir, d'oublier. Portons haut et loin la chanson des pierres et de l'aubier. Allons abreuver contre vents et marées le temps du rêve. S'ils butent et tombent, qu'un conte soit là pour les relever, la parole d'un être ou celle d'une montagne. Qu'à chaque fois que la soif ou la faim tenaille, un bec libère son eau et ses graines. Le souffle d'une gemme ou la voix d'un peuplier. Compagnons, déployez vos ailes. Ô mes bavards, planez sur la terre et soyez des fontaines. Que vos paroles médecines accompagnent le murmure du monde. Et des myriades s'envolèrent joyeuses sur les routes du temps avec leurs trésors sous le regard du roiseau phénix, le maître des renaissances. Ainsi, ces contes sont-ils venus à nous pour nous réveiller ? À tes souhaits. À l'orée des bois, adossée à un bosquet de bouleaux dégarnis, gisait une masure branlante. C'était le paradis des courants d'air et de la fumée noire. L'enfer pour les deux pauvres qui vivaient là. Leur hutte était faite d'un tas de planches et de branches. Un pot ébréché pour l'eau. Une table vermoulue. Deux tabourets et un lit de rondelle. C'était la misère. L'homme était sans travail, mais par morgue se déclarait bûcheron. Il savait pourtant qu'il n'avait aucun droit de tailler ou de fendre, nulle chance de mordre un jour dans les parcelles du chef du village ou du gouverneur, de couper de belles billes de chêne dans les futaies du tsar. Sa femme faisait cuire de maigres pitances tout en se plaignant et n'avait de cesse d'envoyer son incompétent d'homme sur les chemins en quête de vieilles souches et de branches mortes. Un matin, elle le traita de bon à rien, tout en exigeant de lui qu'il aille abattre un géant pour en faire des planches et qu'il se débrouille pour les monnayer. Sans un mot, il partit, s'enfonçant plus loin qu'à l'ordinaire, songeant aux brûlures que la colère inflige à l'âme. Et là, à la croisée de sept chemins, il découvrit un colosse buriné par les abeilles, un tilleul à la peau rude et à la chair tendre, un régent doux et fort. Pourtant, sous l'odeur enivrante et la belle ombre hospitalière, il leva sa hache. « Retiens ton bras, fils de l'homme ! Jamais je ne pourrai satisfaire tes souhaits les plus chers, car vois-tu, j'ai ce pouvoir d'exaucer des vœux. » La voix de la mère tilleule était forte et douce. Il hésita.
Je ne sais pas quoi dire, répondit l'homme confus.
Si tu ne sais pas ce que tu souhaites vivre, comment puis-je t'aider?
Peut-être quelques stères de bois secs et des planches à vendre et d'autres pour réparer mon isba.
Vois. Cet humble souhait est accordé. Le temps de rentrer, le bois sera chez toi. Quand il rentra, il vit sa femme éberluée devant le prodige et lui fit part du pouvoir inouï que possédait cet arbre. Mais loin de partager sa joie, elle se plaignit d'avoir un mari si bête et égrena les colibés. Retourne, maladroit! « Intimide cette mère tilleule avec ta cognée, qu'elle te fasse chef de village et construise une isba dorée. Je veux des serviteurs, des vaches, des tapis et un samovar, toujours plein et brûlant de thé. » L'homme alla jusqu'à la croisée des chemins, brandit son arme prêt à frapper. « Je veux être chef et aussi une isba de rêve, avec des serviteurs, des vaches, des tapis, un samovar. » Toujours plein, sinon, retiens ton bras, fils de l'homme, ou jamais je ne pourrai satisfaire tes souhaits les plus chers. Comment te sens-tu? Est-ce bien tout cela que tu veux, toi? Moi?
Je ne sais pas, à dire vrai, répondit le bûcheron confus.
Il frissonna dans la brume, éternua.
À tes souhaits? Et si tu ne sais pas ce que tu veux vivre, comment puis-je t'aider?
Ne doit-on pas être intrépide et clair quand on fait un vœu?
Ma femme est laide. Je la voudrais plus belle et mieux
fagotée.
C'est ça.
Ce souhait est accordé. Le temps de retourner, tu verras ton isba de rêve et tes serviteurs, tes vaches, tes tapis, un samovar jamais tari et ta femme enfin belle et mieux fagotée. Tâche d'être heureux.
Quand le bûcheron rentra, sa femme l'attendait, séduisante, apprêtée,
mais toujours aigrie et remplie de colère. Devant l'isba, elle pestait. « Me voilà pomponnée, fringante, la belle affaire, quand je partage la vie d'un misérable chef de village en haillons et toujours traîne misère, incapable de revenir avec la noblesse et la mine d'un gouverneur de province. Et je te prie de commander à nos gens d'abattre tous ces bouleaux blancs qui infestent nos terres. »
L'homme déglutit, contraignit ses gens, tourna les talons, régurgita son émoi, serra sa hache, présumant s'en prendre à d'autres qu'à lui-même. Broyant des idées noires, il courut vers la croisée des chemins, trouva l'arbre et brandit sa cognée en hurlant.
« Doudou, retiens ton bras, fils de l'homme,
où jamais je ne pourrai satisfaire tes souhaits les plus chers. Tu vas, tu viens, tu n'es jamais content. Si tu ne sais pas ce que tu souhaites vivre, toi, comment puis-je t'aider ? Sois prudent ou fou, mais veille à ce que tu veux créer. Demande et laisse ton arme. Je veux l'autorité d'un gouverneur, une barbe bien coupée, un palais, une terre de diverses donnant sur le fleuve, des gardes et des chevaux légers. Tâche de te reposer. Profite de cette abondance. Te voilà, gouverneur. Ta femme t'attend sûrement sur le perron de ton palais. Tout juste, elle était là, faisant les 100 pas, inapaisable. Mon ami, dit-elle, sans saluer le fringant gouverneur, peigné, mais déjà dégonflé par l'accueil glacé de sa femme. Décidément, votre ancienne condition vous colle à la peau. Avez-vous si peu d'ambition pour qu'un strampontaine de province vous suffise? Ne vous est-il pas venu à l'idée que je devienne impératrice? Et vous, oui, vous, mon ami, le tsar incontesté de toutes les Russies? Du marbre, de l'albâtre, des dorures, des soldats, des canons, des trompettes. Si ce bout de bois vous résiste, hachez le menu comme vous le ferez bientôt pour les ennemis de l'Empire. À ces mots, le gouverneur courut en titubant jusqu'à la croisée des chemins. Il fit tournoyer sa hache et réclama en sueur exténuée tout l'Empire. Si c'est cela que tu souhaites vivre, comme je l'ai toujours fait, je peux t'aider. Et là, la hache glissa des mains de l'homme. Ses vêtements tombèrent en poussière. Sa peau s'assombrit, se couvrit de longs poils. Une fourrure épaisse l'enveloppa de la gueule aux pieds. Il galopa. La forêt aussi avait tout dissimulé. À la place du palais se tenait la vieille hutte de misère. Sur le seuil, son épouse, égarée, avait perdu sa superbe. La buée lui sortait des naseaux. Elle vit bondir le grand ours et le suivit dans l'océan des bois. J'ai de couper parce que j'étais long. C'est fini pour aujourd'hui, compte à rebours. Cette histoire, vous allez me dire que vous la connaissez, mais oui, des milliers de versions. Mais c'est pas pour ça qu'elle n'a pas quelque chose à nous dire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Marco. À la semaine prochaine. Ciao.